Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, peut-on se créer une religion à la carte?
Bonjour, comment ça va Stéphane?
Ah, ça va aujourd'hui. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
Moi, je me dis toujours avec cette question de la religion à la carte, qui est une super question, je me dis toujours, mais que pensent les gens qui tombent sur la chaîne YouTube Sous les Platanes, la paroisse de mon époux, mais dans laquelle aussi je sers, parce que je suis femme de pasteur et pasteur. Parce qu'on a quand même un culte qui a été créé pendant le confinement. Et puis là, on a une paroissienne, Christiane, qui est mariée à Bob, qui a dit « Ah, mais nous aussi, on aimerait bien enregistrer une prière depuis chez nous, il faut juste nous expliquer comment faire, ok ?» Et puis elle nous dit « Ah, mais au fait, vous vous souvenez que Bob est juif ?» Je dis « Oui, oui, tout à fait, Bob est juif. Et puis, il vous aime beaucoup. Et ben du coup, Bob propose de lire une prière en hébreu. » Bon, on dit « Ok, super, une prière en hébreu, ça peut être sympa, on réfléchit à un culte thématique. » Et quand il nous envoie l'enregistrement, on était un peu sidérés, on a souri, on a rigolé à la fois, on s'est dit, mais alors là, c'était inattendu. Donc, Bob commence très tranquillement l'enregistrement. Et il dit, bonjour, je suis Bob, le juif de l'église, et je vais vous lire une prière en hébreu. Et c'est marrant parce que nous, on est une église luthérienne qui a connu aussi le feu charismatique. On est dans un faubourg, globalement, tout le monde est luthérien ou luthérienne, ou bien chrétien, chrétienne. Et puis voilà, maintenant, on a ce culte où on a Bob, le juif de l'église.
C'est assez comique, ces choses-là, mais c'est, je pense, la réalité, je dirais, du 21e siècle. On a des mariages qu'on qualifie de mix. À certaines époques, au Canada français, lorsque quelqu'un qui était catholique mariait quelqu'un de protestant, c'était quasiment de se couper de sa communauté, de sa famille et de entrer dans la nouvelle communauté. On n'est plus là du tout. C'est presque la norme maintenant d'avoir ces mariages, ces unions. Et en tant que pasteur, d'avoir des demandes de baptême d'enfants où la mère est chrétienne, le père est juif ou athée ou musulman. Mais je peux comprendre que pour plusieurs personnes, c'est difficile. Et très honnêtement, moi, il y a plusieurs années, peut-être frais sorti du collège théologique, plein de mes lectures et ce qu'on m'avait enseigné de la bonne théologie, j'étais très préoccupé par les contradictions logiques. Je disais, bon, mais tu peux pas croire en la résurrection et la réincarnation en même temps. Je me rends compte maintenant que les lignes sont vraiment plus floues. Je suis prêt à considérer une espèce de paradoxe, de vivre dans la tension et de reconnaître que peut-être que j'ai tort et j'ai fait fausse route. Peut-être que c'est moi qui est à côté de la traque. Donc, pour moi, ça a évolué.
Moi, c'est un petit peu comme si j'avais deux approches. D'abord, en ce qui me concerne, j'aime bien quand les choses sont assez claires. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de trinitaire. Je me reconnais dans la théologie luthéro-réformée. Je me sens particulièrement à l'aise dans les rites, les rituels, les symboles des églises luthériennes. J'aime que les choses me structurent. J'aime le temps liturgique, j'aime les couleurs. Voilà. J'aime tout ça et je trouve qu'il y a un sens là-dedans. J'aime le transmettre, j'aime en parler aux gens. Je me sens tout à fait à ma place dans ce cadre-là. Et j'accompagne les autres. Mais dans mon accompagnement, je trouve que c'est tout à fait normal de laisser toute sa place à la spiritualité de l'autre. Là où il, elle en est, là où il, elle trouve du sens, et d'entendre aussi des choses qui, moi, me correspondent pas ou qui font pas sens pour moi. Et il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans l'époque post-doctrinale. Non pas pour dire cette doctrine n'existe plus, mais elle n'est pas la seule réserve de sens. Elle cohabite avec d'autres possibilités et on peut pas toujours marier la chèvre et le chou, mais parfois on peut trouver, comme tu dis, des endroits où on se rencontre et puis on se ressource auprès de la spiritualité de l'autre. Et c'est ce qui manquait avant et c'est ce qui a créé tellement de guerres de chapelle et de religions.
Tu parles d'une période post-doctrinale. Moi, j'ai entendu parler que nous amorcions une période de restructuration des institutions et des, je vais utiliser le terme anglophone, dénominations des églises. Auparavant, lorsqu'on disait, par exemple en Amérique du Nord, « je suis catholique romain », ça venait avec une longue liste qui définissait notre identité. Ici, je suis protestant, presbytérien, ça veut dire que je crois en ça, en ça, en ça. Et maintenant, c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de catholiques romains qui vont nous dire « ouais, bon, le pape, il dit des choses, mais bon, faut en prendre et en laisser ». Et tu as des presbytériens qui disent « ah là, le pape, là, vraiment, là-dessus, là, c'est dans le mille ». Je pense qu'on amorce, du moins en Amérique du Nord, ce grand mouvement-là, peut-être de réalignement. C'est encore peut-être trop tôt, on le voit peut-être pas beaucoup, mais je me rends compte, lorsque il y a les rencontres entre collègues forcés, on prend tous les pasteurs de l'Église unie du Canada dans le coin, puis on vous rassemble. Parfois, j'ai pas grand-chose en commun avec ces personnes-là. J'ai rencontré un pasteur une fois qui refusait de marier des personnes divorcées.
OK.
Quelle partie de la théologie protestante qui t'échappe? Mais bon, et j'ai eu des cafés avec des imams. J'avais vraiment l'impression de parler à un collègue. C'est que cet imam-là était très libéral, dans la même lignée que moi. On n'avait pas nécessairement la même approche théologique, mais on se comprenait et on pouvait faire des activités ensemble très facilement. Donc, cette idée-là de institution fermée, je pense qu'on est en train de voir ça disparaître. Les frontières deviennent plus perméables, je pourrais dire. Elles bougent, elles évoluent. Et il faut pas s'enfermer dans une espèce de refus de cette évolution-là, je crois.
Alors, tout à fait, moi je suis assez d'accord avec toi. On parlait beaucoup de post-dénominationnel et je pense que c'est assez juste. On parle aussi de post-doctrinal dans le sens où ben c'est vrai qu'il y a des identités très mélangées, donc les gens ils peuvent être attachés à leurs deux identités, trois identités religieuses, des fois quatre, et donc c'est très compliqué d'appliquer quatre doctrines qui vont être parfois contradictoires. Je me dis aussi que l'époque, elle est plus tellement au grand fourre-tout comme les années 2000-2010, en fait, où on essayait absolument de raccrocher les gens à l'Église en parlant leur langage. Je me rappelle d'un pasteur, il n'a pas eu tout à fait tort et probablement que c'était tout à fait réfléchi. Mais comme il y avait cette grande vague New Age à propos des arbres, il avait fait tout un culte des étudiants, on parlait beaucoup des arbres. Et à la fin du culte, il y a une théologienne qui m'a dit « Mais est-ce que tu as entendu parler de Jésus-Christ pendant ce culte ?» J'ai dit « Non, non, mais bon, maintenant, je connais pas mal de trucs sur les arbres dans la Bible. » Alors, c'est marrant parce que, voilà, on a essayé et finalement, on constate que c'est pas du tout ce que veulent aussi une partie des jeunes, même ceux qui sont avec plein d'identités. Ils veulent que chacune des identités elle soit claire et lisible. Par exemple, il y a le retour du carême, très fort. Alors bon, pour moi, c'est pas tellement un retour parce que dans ma tradition, chez les luthériens et les luthériennes, il y a toujours une notion de carême. Mais sur TikTok, mes filles, elles m'ont dit « Ah, c'est super, maman, que tu nous élevais avec cette notion du carême » parce qu'en fait, sur TikTok, c'est une grande trend. Le retour du voile chrétien. Bon, ça, par exemple, ça me concerne pas du tout, mais pour les orthodoxes, par exemple, pour certains courants catholiques, j'ai déjà eu des demandes de jeunes qui m'ont dit « Est-ce que tu penses que c'est bien que je mette le voile quand je viens à l'église ?» J'ai dit « Écoute, nous, on n'est pas darbiste, on n'est pas orthodoxe. Ouais, si tu veux, tu te mets ce que tu veux sur la tête. Hein. Il y a toujours eu des chapeaux à l'église. Mais en l'occurrence, c'est pas quelque chose de notre tradition. Ah, d'accord. Bon, bah, si c'est pas la tradition. Voilà. Il faut que les choses soient assez lisibles. Et bien sûr, pourquoi est-ce que c'est le carême ou le voile qui actuellement sont des trends TikTok en France? c'est parce qu'il y a une montée aussi d'un certain type d'islam ou peut-être de certaines sectes de l'islam. Et donc, on voit les copines à l'école qui font le ramadan ou qui parlent de mettre le voile. On se dit, mais moi, je suis chrétienne, c'est quoi mon identité? On cherche un peu, on se dit, ah, mais nous aussi, on a carême, nous aussi, on a le voile. Et un peu par mimétisme, on veut afficher son identité, alors qu'en fait, on peut l'afficher d'autres façons. On n'est pas obligé d'être dans du mimétisme. Donc, c'est hyper intéressant puisque maintenant, on a toutes ces familles multiculturelles, multiculturelles, et on n'a pas du tout intérêt en tant qu'église à sembler tout le temps flou ou entre deux trucs. Il vaut mieux être tout à fait clair, tranché, les couleurs liturgiques, le truc, le machin, être dans quelque chose d'assez clair tout en disant aux gens, c'est OK si vous, vous venez et vous prenez ce qui fait sens pour vous. Ce serait une vraie erreur de mon point de vue, à la fois pédagogique et spirituel, que de dire aux gens, bah alors on va mélanger un peu du ramakem pour faire... Cela dit, dans les familles multiculturelles et multi-identitaires, comme la mienne, on a adoré le lundi de Pâques faire un Pâques Ftour. Parce qu'en fait, le mari de mon père est algérien musulman, et tous les ans, pour Ramadan, on fait le Ftour. Et là, pour le lundi de Pâques, on a dit, on fait le Pâques Ftour. Et on a trouvé ça génial de faire le Pâques Ftour. Mais juste avant, on avait fait tout le Triduum Pascal. Et donc, le Pâques Ftour ne remplaçait pas un élément du Triduum Pascal, mais il s'ajoutait au reste. Et on n'a pas demandé à Rachid de faire une prière chrétienne à table. Il a récité la sourate qui ouvre le Coran, et on a mangé la date, et on a vraiment respecté son rituel. Donc, c'est un petit peu à cet endroit-là que moi je me trouve. Je décourage personne de faire les choses un peu à la carte. Par contre, je trouve que nous, en tant qu'église, on n'a pas grand-chose à y gagner de tout mélanger tout le temps.
Je pense que tu touches un bon point, c'est de trouver l'équilibre entre authentique et être inclusif.
C'est ça.
C'est une phrase que je répète beaucoup depuis quelques semaines. L'Église ne doit pas être une machine à exclure, mais une machine à inclure. Si les gens décident, pour certaines régions, d'adopter cette pratique-ci, puis la mélanger avec cette pratique-là, et si les gens y trouvent du sens, bon, je ne vais pas commencer à dire « Ah non, 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 c'est pas correct, tout ça ». On peut dire, nous, en tant que chrétiens, c'est ça les piliers de la foi, c'est ça les grands principes. Ensuite, on ne va pas commencer à décider pour les gens ce qui est acceptable ou non. Moi, c'est toujours la question, qui décide de l'orthodoxie?
C'est ça.
Qui compose cette autorité qui décide? Et est-ce qu'on a besoin d'une seule réglementation qui s'applique, par exemple, la chrétienté, c'est 1 milliard d'êtres humains sur Terre, alors on va avoir une règle, une série de valeurs non négociables pour ce 1 milliard de personnes? Moi, je préfère de dire, ben voici les grands principes, trouvez moyen de le vivre dans votre contexte. On croit en Dieu. Bon, ben moi, la façon que je crois en Dieu, puis la personne à Kinshasa, la façon qu'elle croit en Dieu, elle peut être différente, mais on croit en Dieu quand même. Et c'est là que je trouve qu'on fait erreur en voulant trop être uniformisé et de confondre unité et uniformité. Je ne crois pas d'avoir des pratiques liturgiques différentes fait que on n'appartient plus à la même église, puis qu'ils décident ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils veulent pas. Tout le monde décide. Tout le monde fait des choix de dire ça, ces passages-là de la Bible, ça me parle pas, mais ce passage-là de la Bible, ça me parle. On fait tous des choix. On fait toutes des choix. Donc, on assume, on tolère, on garde les grands principes ensemble. Moi, c'est la façon que je vois ça.
D'ailleurs, c'est intéressant puisque au moment, justement, du Covid, j'avais pas mal de collègues au moment de la reprise des cultes en France qui ont dit « Bon, mais est-ce qu'on va avoir des consignes pour savoir ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on continue à communier à la grande coupe? Est-ce qu'on communie au petit verre? Voilà, qui touche quoi? Est-ce qu'on met des gants? Est-ce qu'on n'en met pas? C'était hyper intéressant parce que d'un seul coup, on avait besoin d'un magistère. Alors que la plupart du temps, en fait, moi, j'ai fait une thèse sur la liturgie dans nos églises luthériennes et réformées en France. Et la plupart du temps, les ministres, ils sont pas tellement à la recherche de magistère. Et comme tu dis, ils font ce qu'ils font dans leur communauté en accord avec leur conseil et en fonction aussi de leur sensibilité. Mais là, on était arrivé sur quelque chose de l'ordre de l'hygiène, sur quelque chose de l'ordre de la vie, de la survie, du soin de l'autre. Et on a quelques collègues qui ont été super réfractaires à des règles qu'on leur a données, qui étaient assez simples, hein, de mon point de vue. Et il y en a même deux qui ont été suspendus. Et c'est vraiment rigolo parce que moi, j'avais jamais expérimenté ça, qu'on puisse suspendre quelqu'un parce que il ou elle respecte pas des règles concernant la Sainte Cène. Après, c'est clair que on était sur une période où il fallait faire très attention les uns aux autres, donc il y avait une raison sérieuse derrière. Mais il y a aussi des us et coutumes, des habitudes qui peuvent faire du mal aux gens. Et c'est important de pouvoir en discuter collectivement. Par exemple, je lisais un article sur une pratique dans certaines églises, notamment en Afrique, mais certainement pas qu'en Afrique, le banc rouge où, pendant le culte, on peut mettre là les gens dont on estime qu'ils ont péché. Évidemment, si tu es une jeune femme enceinte et qu'il n'y a pas d'homme à côté de toi qui a l'air d'être ton mari, ta destination, c'est le banc rouge. Là aussi, est-ce que ce serait bien malin de transporter ce genre de pratique dans nos églises? Est-ce que quelqu'un qui viendrait d'une église comme ça et qui dirait, ben voilà, en fait, ce banc rouge, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le garde pas? Ben non, on le garde pas. Parce qu'on a une éthique qui est celle de prendre soin des gens et pas de les stigmatiser. Et ça s'explique au même titre que d'autres exemples moins flagrants. Par exemple, on bénit pas les objets, c'est tout. Pour moi, c'est un truc qui est assez clair. On bénit les personnes et on peut l'expliquer aux gens. Mais maintenant, après, s'ils insistent ou s'ils veulent absolument, on peut dire aux gens, mais écoutez, mettez votre bague et puis je vous bénirai, la bague sera bénie comme le reste. Voilà, il y a plein de façons des pirouettes, comme tu me fais avec le doigt pirouette. Et puis, il y a aussi des usages qu'on croit chrétiens et qui sont en fait super culturels. Je me rappelle comme ça d'une famille où j'étais tout étonnée parce qu'on n'avait que l'un des deux enfants qui venait à l'école du dimanche. Alors, à un moment donné, je me permets de parler avec l'un de ses parents. Je lui dis, écoutez, je suis un peu étonnée, là, je vois que la petite fille, elle... Ah ben oui, parce que nous, on applique la règle prussienne. Alors bon, je rappelle qu'est-ce qu'on est en Alsace, hein. On n'est pas trop en Autriche. Et je dis, ah, la règle prussienne. Oui, alors, le garçon suit la religion du père et la fille la religion de la mère. Ben, ça, c'est pas chrétien, ça, c'est un truc culturel. Et puis, au fur et à mesure, la petite en a eu marre d'être séparée de son frère. Et puis, on a fini par les avoir les deux. Voilà. Donc, des fois, on s'invente aussi des règles pour se structurer et on se rend compte que la vie est plus forte. Alors, par contre, là où moi, je pose quand même ma ligne rouge. Et puis, on en a déjà parlé sur l'épisode sur yoga, qigong et tout. On a eu des retours. C'était super. Hein, c'est un épisode qui a suscité pas mal de débats. Ouais.
C'est vrai.
Moi, j'ai plus de difficultés avec les courants New Age. Non pas parce qu'ils ne sont pas basés sur le Christ. Bien sûr, ça, c'est une difficulté que j'ai spirituelle en tant que pasteur. Et parce que pour moi, c'est assez important que ma propre pratique et ma prédication soient basées sur le Christ. Mais c'est surtout parce que leur fondement, c'est des promesses de prospérité, en fait. Hein. C'est de dire d'aller mieux, d'être plus ouvert, d'être plus lumineux, d'avoir l'énergie qui circule mieux. En fait, à la fois, c'est très individualiste. Et en plus, ça fait reposer le bien-être des gens sur les efforts énergétiques de leurs adeptes. Voilà, on n'aurait pas ouvert assez nos chakras. Moi, je le sais, je vais au yoga, et c'est un yoga en plus religieux. Je vois bien le genre de culpabilité qui pourrait découler de certains discours. Et ça me semble être la ligne rouge, en fait. Il y a des jours où je ne sais pas pourquoi, je vais me sentir en pleine forme. Et la veille, j'aurais rien fait de spécial. Et il y a des jours où je vais me lever et je serai de méchante humeur alors que la veille, je suis allée au culte et j'ai bien prié. Il n'y a pas de corrélation entre les deux, malheureusement. Mais peu importe comment moi, je me sens Dieu même, en fait, et je vis de sa grâce.
Je t'écoute et tout ce qui me vient en tête, c'est la théologie de la prospérité qu'on a énormément en Amérique du Nord. Je ne crois pas que vous êtes épargné, mais nos amis américains sont très forts là-dessus. Envoyez-moi 500 $ et vous recevrez une bénédiction de Dieu. Jésus m'a parlé, j'ai besoin d'un jet privé pour continuer mon ministère. Et c'est complètement décomplexé, là. Et visiblement, ça fonctionne assez pour que ces gens-là s'achètent des jets privés.
Eh ben.
Et ce qu'on oublie, peut-être dans tout ça, c'est que la religion est une construction humaine. C'est pas Dieu qui a décidé que, bon, là, on va se structurer, bon, l'Église chrétienne, puis ensuite, on va diviser ça, puis un tiers aux catholiques, 25% aux protestants. Même Jésus n'a pas, selon les évangiles, de vraie volonté de créer une nouvelle religion. On peut toujours débattre s'il voulait réformer le judaïsme ou apporter un nouveau courant au judaïsme, mais c'était pas l'objectif numéro un. On va s'appeler maintenant chrétiens, les gars, puis on va commencer à faire ça comme ça. C'est une construction humaine, c'est une institution. Je dis pas que c'est nécessairement mauvais. Les institutions remplissent des rôles, jouent une part importante dans ce qu'on fait. C'est juste de se rappeler qu'il y a quelqu'un, un jour, ou plusieurs personnes, un jour, ont décidé que, dorénavant, ceci était pour se faire. Et il y a des gens, plus tard, qui ont dit, non, moi, j'ai un point de vue différent. Et certaines réformes ont tombé à l'eau, certaines réformes ont fonctionné. On peut parler d'inspiration divine, mais moi, j'y crois pas que c'est Dieu, que c'est le Christ, que c'est l'Esprit Saint qui veut que on a une structure hiérarchique, qu'on a une église avec des dogmes bien précis.
C'est vrai que moi, j'aime beaucoup, en fait, un certain nombre de signes et je suis assez reconnaissante que, bah, justement, il y ait cette tradition. Mais je le prends pour ce que c'est-à-dire une tradition. Et comme la tradition luthérienne est riche de symboles, de couleurs, de rites, moi, ça me rencontre dans ce besoin-là. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens que ça rencontre beaucoup moins. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir, je trouve, dans la programmation d'une paroisse, différents types de cultes par an. Qu'il y ait certains cultes dont on sache que, bah, voilà, ils vont être assez liturgiques et d'autres dont on sache qu'ils vont être assez foufou avec des familles, des enfants, de la musique et qu'on arrive à marier un peu comme ça un certain nombre de besoins de personnes. Et finalement, c'est là qu'on fait un peu notre religion à la carte aussi, quoi. Alors moi, j'aime les signes. Les signes parce que c'est synonyme de symbole dans le christianisme. Et puis, j'aime beaucoup cette conviction luthérienne quand on dit que les signes rendent visible une partie de l'invisible tout en laissant une grande part au mystère. Et j'aime, en fait, cet espace qu'on crée entre le visible et l'invisible, cet espace dans lequel, moi, je peux insérer ma foi, je peux me laisser traverser par ça, et je peux me renouveler aussi avec des pensées, avec des prières, avec des projections, avec des fois des grandes émotions. Moi, je suis un peu accro à cet espace qui ressemble un petit peu à l'espace entre les chérubins pour pour reprendre l'exemple biblique, les chérubins qui portent l'espace divin là pour la tente de l'alliance. Et j'aime cette notion là d'espace un peu mystérieux. Donc je serais bien embêtée si on se mettait à tout vouloir cadrer, à tout vouloir réglementer. J'ai toujours du mal avec les cultes trop minutés. J'ai besoin de cette diversité et je suis d'autant plus contente qu'on ait Bob, le juif de l'église.
Ce que je retiens là-dedans, c'est que l'église sera toujours en évolution. Ce que c'était l'église il y a 500 ans, il y a 2000 ans, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas enfermer le travail de l'Esprit-Saint. Les choses évoluent. On explore, on découvre que des choses, non, c'est pas une bonne idée. Il y a des choses, ça c'est intéressant. Il y a la théologienne Phyllis Thickle, je mettrai le lien dans les descriptifs du podcast, qui a popularisé, elle l'a pas créé, mais elle a popularisé cette idée que à chaque, grosso modo, 500 ans, il y a une grande vente de garage, qu'on dit en Amérique du Nord, un marché aux puces.
Ah oui.
Où le christianisme laisse aller toutes ces choses qui ne servent plus pour faire de la place à des nouvelles choses. La dernière a été, selon elle, la réforme et la contre-réforme. Et on serait dû pour un nouveau grand ménage dans notre foi, dans nos institutions, où on laisse aller des choses pour faire de la place à des nouvelles choses. Moi, je trouve que c'est super important d'accueillir cette diversité, cette volonté d'essayer des choses pour voir si c'est bon, si ça parle aux gens, si ça nourrit la foi ou si ça éloigne la foi. Et une fois qu'on a compris, ben on garde ce qui est mieux. C'est ça, moi, que je trouve qu'on critique peut-être trop souvent quand on parle de religion à la carte. Il faut expérimenter. Je pense que ça fait partie d'un processus normal d'évolution, sinon on sclérose et on meurt.
Mais tu vois, pour moi, c'est un petit peu la conclusion que je dirais à cette discussion, c'est on veut expérimenter, toi et moi on expérimente, on a des collègues qui expérimentent, mais pour expérimenter, pour être créatif, il faut sortir de la zone de confort. Et comme on a tellement peur actuellement que les gens soient pas contents, que les gens soient insatisfaits, qu'ils aillent voir ailleurs, qu'ils quittent nos églises, qu'ils donnent pas de sous, qu'ils soutiennent pas des initiatives en cours, eh ben on n'ose pas sortir de la zone de confort. Et ça, ça nous empêche d'innover, ça nous empêche d'expérimenter, ça nous empêche d'être créatifs. Cette peur que les gens, en fait, nous tournent le dos. Et donc, on peut même pas oser parce qu'on est paralysé par la peur. Donc moi, je suis pour l'innovation et je remercie celles et ceux qui croient en notre projet de podcast, qui nous soutiennent et qui nous envoient aussi des questions et nous permettent de sortir de notre zone de confort.
Très bonne conclusion, Joanne. Merci à l'Église unie du Canada qui nous appuie dans ce projet, peut-être un peu plus hors normes, je pourrais dire. Absolument merci à tous nos auditeurs, nos auditrices, les personnes qui partagent nos épisodes avec leurs proches, qui font découvrir notre projet même après 2 ans. Écrivez-nous, question de croire à commercial@gmail.com. À très bientôt, Joanne. Prends soin de toi.
À très bientôt. Prenez soin de vous.